VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. 11h, temps universel. Un tribunal kényan a levé temporairement aujourd'hui l'interdiction prise par le gouvernement de manifester dans les centres d'affaires des trois principales villes du pays, Nairobi, Mombasa et Kisumu, dans l'attente d'un jugement sur le fond. La coalition d'opposition, la NASA, avait saisi la justice en estimant que cette interdiction contrevenait au droit à manifester pacifiquement garanti par la constitution kényane. L'opposition n'a toutefois pas hésité à braver cette interdiction, ses partisans tentant à plusieurs reprises ces derniers jours de marcher dans le centre des trois villes. L'opposition manifeste pour exiger une réforme de la commission électorale IEBC, qu'elle juge incapable d'organiser une élection présidentielle crédible le 26 octobre. C'est la détresse à Mogadiscio où les habitants ont désespérément cherché hier des nouvelles de leurs proches portés disparus depuis l'attentat de samedi dans la capitale somalienne. Il y a près de 300 morts. Claire Morin-Gibou.
Le ministère somalien de l'information a communiqué hier un premier bilan, tout en laissant entendre qu'il pourrait s'alourdir. Le gouvernement a mis en place un comité d'urgence pour aider les familles à chercher leurs proches disparus. Un fonds a aussi été créé pour ceux qui ont perdu leur maison dans l'explosion. Dès dimanche, les habitants de la capitale avaient commencé à partager des noms et des photos sur Facebook pour tenter de retrouver leurs proches disparus. Cet attentat au camion piégé est survenu samedi au carrefour K5 dans un quartier commerçant très animé de Mogadiscio. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les autorités n'ont aucun doute que les islamistes Chebab sont derrière cette attaque.
De violents heurts ont éclaté à Sokodé, deuxième ville du Togo, entre la population et les forces de l'ordre, après l'arrestation hier d'un imam proche d'un parti d'opposition. Le calme était revenu ce matin, mais la population a menacé de ressortir dans la rue si l'imam n'était pas libéré dans la matinée. Le ministre de la Sécurité, le colonel Yak Dameyame, a justifié l'arrestation de l'imam, un proche du Parti national panafricain, le PNP, en disant que dans ses prêches, il appelle ses fidèles à la violence et à la haine. Au moins 29 personnes, selon un responsable local, 20 selon la présidence du Nigeria, ont été tuées dans l'état du plateau, dans le centre du pays, après un regain de violence entre éleveurs musulmans et cultivateurs chrétiens. Amenant, le président Muhammadu Buhari a ordonné aux forces de l'ordre de stopper cette folie. Les attaques se sont produites hier où des éleveurs peul nomades s'en sont pris à des cultivateurs sédentaires après une escalade des tensions pendant le week-end malgré un couvre-feu décrété par le gouverneur de cet état où cohabitent difficilement les deux communautés. Et toujours au Nigeria, le leader indépendantiste pro-Biafra, Nnamdi Kanu, n'est pas apparu aujourd'hui devant le tribunal d'Abuja, la capitale du Nigeria, où il devait comparaître pour trahison et atteinte à la sécurité de l'État. Il n'est plus apparu en public depuis un mois d'après l'AFP. Sa famille et son avocat accusent l'armée de le détenir en secret, une affirmation démentie par le gouvernement nigérien. Au Mali, obsèques aujourd'hui de l'écrivain Yambo Wologem, décédé vendredi dernier chez lui à Sévaré. Âgé de 77 ans, le premier Africain à obtenir le prix Renaudot avait une autre vision du monde. Pour lui, toute créature est divine. Notre correspondant Mamadou Bokoum nous dresse le portrait de l'homme.
Ce fils unique d'un inspecteur d'enseignement est né dans le pays d'Ogon il y a de cela 77 ans. Yambo Wologem, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a fait ses études secondaires à Bamako avant de se rendre au lycée Henri IV en 1960 en France. Brillant étudiant, l'enfant de Bandiagara est licencié S-Lettres. Il a obtenu également sa licence en philosophie, puis un diplôme d'études supérieures en anglais et un doctorat en sociologie. Avec sa belle plume, Yambo Wologem a publié plusieurs écrits dont le plus célèbre est « Le devoir de violence ». Ce qui lui a valu le prix Renaudot en 1968 et il a été le premier Africain à l'obtenir. C'est ce même roman qui a été source d'inquiétude pour lui. L'enseignant du lycée Charenton à Val-de-Marne, en banlieue parisienne, est toujours avec sa passion pour l'écriture. Ambibé Wologem est son fils cadet.
Les activités qu'il mène, il aime parler et il aime écrire tout le temps, parce que l'écriture c'est une passion, il le fait très souvent, mais il m'a quand même demandé de ne publier aucun de ses écrits, parce que comme il a été accusé une fois, il dit que même s'il ne serait plus là, qu'il m'a demandé de ne jamais publier ses romans, sinon on va m'accuser moi aussi de dire des choses que je ne voulais pas dire au bec, voilà.
Polyglotte, cette référence africaine et mondiale était un grand musulman praticien. Pour lui, toute création est divine. Yambo Ologem.
Les gens se promènent avec des sacoches. Et ils ont des photos là, on a dit création d'emploi. Dieu crée la vie, Dieu crée la mort, Dieu crée le soleil, Dieu crée la lune. Toi tu dis que tu crées. Des présidents, même européens, s'amusent, et le français est leur langue. Ils ont là décret portant création, loi portant création. Non, on dit décret portant institution, décret portant inauguration, mais on n'emploie pas le mot création. Dieu est le seul créateur.
L'auteur de Les Mille et Une Bibles du Sexe a une vision critique pour nos dirigeants d'aujourd'hui.
Les gens viennent au pouvoir, c'est moi je ne savais pas, je pensais qu'ils étaient patriotes. Ils viennent pour avoir de l'argent, ils viennent pour rouler dans des voitures climatisées. C'est pas ça, ils viennent pas par patriotisme.
Depuis 53 ans, cet habitué des grandes villas et de grands restaurants occidentaux était dans les oubliettes à Sévaré Mopti avec sa femme Korka dans une situation peu digne d'un homme de son rang. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
Une délégation parlementaire libyenne a annoncé la suspension de sa participation au pourparlers entamé dimanche à Tunis sous l'égide de l'ONU, tandis que des consultations internes devaient se poursuivre ce mardi. Les pourparlers de Tunis réunissent d'un côté des représentants du Parlement élus en 2014 et basés dans l'est du pays, de l'autre des membres du Conseil d'État basé à Tripoli et formés en grande partie par des ex-membres du Congrès général national, l'ex-parlement issu des élections de 2012. Les deux camps sont appelés à rédiger des amendements à l'accord interlibyen signé fin 2015 à Skhirat, au Maroc. Issu de cet accord, le gouvernement d'union, GNA, dirigé par Fayez al-Sarraj, n'est pas parvenu à faire l'unanimité en Libye. Il est 7h07 à Washington.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Et en Californie, il est 4h07. Quelques 11 000 pompiers montrent pour la première fois après avoir combattu pendant 7 jours les terribles incendies qui ravagent le nord de la Californie. Et ils ont fait au moins 41 morts ces incendies. On fait le point avec Solange Diamoulissa.
Les incendies hors de contrôle vendredi ont été maîtrisés à 70% hier matin. Les progrès effectués sur plusieurs fronts ont permis de lever des ordres d'évacuation, permettant ainsi à beaucoup d'habitants de retourner dans leur quartier. Les feux ont réduit en cendres près de 86 000 hectares et tué au moins 41 personnes. Au moins 5 700 bâtiments sont partis en fumée. Le président Donald Trump a déploré hier les terribles pertes humaines. Il a rappelé avoir émis une déclaration de catastrophe naturelle pour la Californie. Ces incendies ont progressé très vite, attisés par des vents soufflants jusqu'à 80 km/h en période de sécheresse. Les régions de Napa et Sonoma, les plus touchées, sont très touristiques et abritent de nombreuses exploitations viticoles.
Les deux grands partis kurdes irakiens sont entrés en guerre ouverte après le succès des forces irakiennes face à leurs combattants à Kirkuk. Plusieurs cadres de l'Union patriotique kurde accusant le président du Kurdistan irakien de vol entre le Parti démocratique du Kurdistan de Massoud Barzani, président de la région autonome, et l'UPK créé par Jalal Talabani, récemment décédé. La rancœur est ancienne. Ils se sont même combattus dans les années 90, mais le référendum sur l'indépendance tenu le 25 septembre au Kurdistan irakien a remis le feu aux poudres. Et puis, l'attaque contre un complexe de la police afghane à Gardez, dans le sud-est de l'Afghanistan, a fait au moins 32 morts et plus de 200 blessés, selon un nouveau bilan des services hospitaliers. Nous avons jusqu'à présent reçu 160 blessés et 26 corps, dont celui d'une femme, dans le principal hôpital de Gardez. Et nous avons aussi 52 blessés et 6 morts dans l'hôpital militaire, a indiqué à l'AFP le docteur Shir Mohamed Karimi, le directeur adjoint de la santé pour la province province de Paktia en Afghanistan. Jean-Roger Billon à ce micro. Fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque. Bon après-midi sur votre station préférée et merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.